Le magasin d'alimentation aux 4 saisons à Bulle et son assortiment de nappes pour vos fêtes vous présente À l'ombre du baobab
avec Amel.
Et ben moi ce mercredi matin, je suis juste là pour passer le micro à Laurent Michel. Bonjour Laurent.
Bonjour Amel. Ce matin, nous allons parler littérature avec une auteure. Je ne sais pas si on féminise en fait le mot auteur. En tout cas, une femme qui écrit.
On dit un écrivain en tout
cas. Un écrivain, voilà.
Ben c'est une pas femme très joli écrivain. Dire écrivain. On peut le dire, je crois, non ? Mais c'est pas super joli.
Je préfère un écrivain.
Oui. D'accord. Alors un écrivain connu des Fribourgeois, Mélanie Richaud, qui vient avec son nouveau livre après Tourterelle, après Mu. C'est Le Bain et la Douche Froide, paru aux éditions Slatkin. 24 nouvelles. Je cite cruellement humaines, en tout cas cruelles d'humanité. On en parlera tout à l'heure. On comprendra aussi pourquoi peut-être cet adjectif de cruel. Mais bon, voilà, on va déjà vous accueillir. Bonjour, Mélanie.
Bonjour.
Et bienvenue, bien sûr. Parler d'un livre, parler de son œuvre, je sais, pour vous avoir reçu déjà dans d'autres situations, c'est pas toujours facile, en fait, pour vous.
Non, c'est pas toujours facile. C'est une bonne entrée en matière. En fait, quand on écrit un livre, on a déjà l'impression d'un peu tout donner. Puis c'est notre moyen d'expression, ou en tout cas, c'est mon moyen d'expression. Donc, avoir un recul sur ce qu'on écrit, en tout cas sur ce que j'écris, c'est très difficile pour moi. Et c'est souvent à Radio Fribourg le premier interview, le premier tour. C'est la première fois que j'en entends parler, que j'en parle oralement. C'est comme un gros secret qu'on dévoile. Donc, c'est un moment assez difficile, même s'il est agréable.
Merci beaucoup. Mais visiblement, ça s'améliore un peu plus. Et puis, en tout cas, pour en avoir parlé un peu avant avec vous, il y a comme une... voilà, il est né maintenant. Il va avoir sa propre vie et il va marcher tout seul, si on peut dire ça comme ça. 24 nouvelles sans lien apparent entre elles, si ce n'est qu'elles sont elles ont toute cette humanité avec tout ce qu'elle a de beau. On y rencontre l'amour, bien sûr, la joie, mais la haine, l'humiliation, les attentes, la peur, tout ce qui nous fait. Quand vous dites qu'elles sont cruelles d'humanité, est-ce que pour vous, Mélanie, la vie vous semble cruelle ?
Ah oui, la vie est cruelle et injuste. Elle est cruelle déjà dans le sens où on finit tous par mourir. Oui, la vie est cruelle et injuste.
Certains pourraient trouver très juste de mourir après avoir fait leur temps. Et puis...
Alors peut-être que la mort serait une délivrance et que la vie en serait d'autant plus cruelle. Donc oui, pour moi la vie est cruelle et que je trouve que la beauté des choses se cache des fois justement dans la cruauté, comme l'amour en fait. Puis que les deux, l'amour et la cruauté se marient bien, offrent des contrastes à ce qu'on vit, aux émotions, et puis c'est ce que j'avais envie de mettre en avant. Elles ont aucun lien les unes avec les autres, comme la vie, comme un jour ne ressemble pas à son lendemain.
Elles n'ont aucun lien apparent, disais-je, mais en fait, quand on gratte un tout petit peu plus, on peut justement retrouver un fil continu, un lien, justement, cette humanité, ce juste, voilà, ce besoin de reporter les situations telles qu'elles sont. Et ce sentiment aussi, pour avoir lu votre livre, qu'on peut s'identifier en tout cas à au moins une histoire, en tout cas dans chaque histoire on retrouve quelque chose.
Oui, il y a des narrateurs masculins, féminins, il y a du je, il y a du tu, il y a du elle, il y a du il, et j'ai vraiment pris le soin d'avoir une large palette de personnages, avec beaucoup de personnages adolescents quand même, mais aussi une vieille personne, aussi chacun, ouais, c'est très représentatif de la population. Pour moi aussi, un des fils conducteurs, c'est des phénomènes de société, avec ce qu'on trouve de beau et de moins beau dans ce qui se passe tous les jours.
Pour vous, justement, de coller le plus possible à ce que vive chacun, ce que vit chacun dans son quotidien, c'était important.
C'était important de coller à ce que vivent les personnages, à ce que vivent les gens, mais aussi à ce qu'ils ne disent pas. Je pense que la notion de tabou, de secret, de ce qui est caché, est très importante pour moi. On a parlé tout à l'heure, on débriefait un petit peu de la difficulté de prendre sa place. Je pense que beaucoup de personnages vivent ça dans le livre, et puis que c'est un petit peu, peut-être que c'est un petit peu le but de chacun dans sa vie, de trouver sa place, d'oser s'affirmer, d'être épanoui, ou pas, hein. Il y a des existences où on n'arrive pas. C'est le cas de plusieurs personnages dans le livre.
C'est vrai que quand, pour l'avoir lu, il y a plein de moments dans plein de petites histoires. On viendra plus en détail sur les histoires tout à l'heure. Il y a plein d'histoires où je sciais entre le sentiment de vouloir prendre le personnage principal dans les bras et en même temps de le secouer fortement en lui disant mais prends ta place, vraiment existe. Je pensais à par exemple la deuxième nouvelle qui s'intitule Deux sculptures et qui est l'histoire d'une jeune fille en apprentissage et qui est tyrannisée par deux, je sais pas si c'est des secrétaires ou des collaboratrices de l'entreprise qui la maltraitent et qui sont vraiment odieuses avec elle, jusqu'à même à la fête à l'apéritif donné pour son départ, elle la rabaisse et puis elles finissent en sculpture. Je vais pas dévoiler exactement tout, les gens comprendront en lisant. Et quand je disais par exemple cette histoire, il y a d'autres personnages comme ça. J'avais envie de dire, mais pourquoi ne pas avoir dit ce que tu pensais? Pourquoi ne pas avoir exprimé et leur dire, mais écoutez, non, j'accepte pas, je ne suis pas. Donc, c'est un sentiment que j'ai retrouvé à plusieurs reprises.
Je pense que chaque nouvelle est un arrêt sur image. Il y a souvent une unité de lieu ou une unité de temps. Et je pense que ces situations racontées permettent à la personne ou au personnage de prendre conscience de ça. Et ben là, c'est une jeune femme en apprentissage. Ça veut dire qu'elle a toute la vie pour apprendre à s'affirmer et à prendre sa place. Donc c'est plutôt une prise de conscience. L'histoire racontée, c'est une prise de conscience pour justement essayer d'être plus proche d'elle-même et de confronter ce qui est à confronter.
Effectivement, et alors après, je pense que c'est peut-être moi, parce que j'ai souvent trouvé que c'était des personnages féminins qui n'osaient pas prendre leur place. Et j'ai envie de dire, mais réagissez, parce que c'est vrai que la situation demande en fait à le faire. Mais il y a plein de... Alors, on a parlé surtout de cruauté, de comment est la vie, mais il y a aussi plein de belles choses. Il y a l'amour, il y a de la lumière qui est là en permanence, même si c'est timide et c'est léger.
Ouais, moi je pense qu'il y a autant de... S'il y a beaucoup d'ombre, c'est qu'il y a beaucoup de lumière. Et puis j'aimerais rebondir sur le fait que ça soit des personnages féminins qui n'arrivent pas à prendre leur place. Pour moi, c'est pas tout à fait vrai. J'ai un exemple.
Mais c'est que ma vision.
dans la nouvelle qui s'appelle Perle de Mercure, c'est une relation père-fils où le père et le fils n'arrivent pas à se dire qu'ils s'aiment alors qu'ils s'aiment les deux. On a affaire à un père qui est très rural et qui le jour où sa mère a perdu les os, il a préféré s'occuper d'un petit veau qui était en train de naître.
Plutôt que d'aller accompagner sa femme, oui.
Puis on sent l'amour très fort entre l'un et l'autre, mais ils sont incapables de se le dire. Et pour moi, c'est aussi une manière de ne pas prendre sa place.
C'est vrai.
On aurait aussi envie de le secouer et de lui dire « Mais dis à ton père qui t'aime !» Enfin, on aurait aussi... Donc, c'est peut-être un hasard que ce soit des personnages féminins, et peut-être qu'il y a quand même plus aussi de personnages de nouvelles au féminin. Parce que peut-être que c'est plus facile pour moi de m'identifier à
une femme,
un personnage féminin. Ouais.
Le titre de votre ouvrage, donc Le bain et la douche froide, c'est aussi le titre d'une des 24 nouvelles qui est dans ce recueil. Pourquoi avoir choisi ce titre-là et pas le titre d'une autre nouvelle ou un titre complètement en dehors?
Alors je pense que les titres s'imposent. J'ai l'impression d'avoir jamais choisi un titre. Il y a à un moment donné, l'écriture amène à l'écriture, puis on arrive sur un texte ou sur une nouvelle, et le titre, c'est ça. Il est presque inchangeable. Puis pour Le bain et la douche froide, c'est la première nouvelle que j'ai écrite. Après, il y a aussi une nouvelle qui date de plus vieux, une nouvelle qui avait été sélectionnée au magazine littéraire. Mais je l'ai rajouté en après dans le recueil. Mais la première ou les premiers traits sur mon petit carnet à la main, c'était Le bain et la douche froide. Des extraits assez poétiques. Après, j'ai plutôt mis la nouvelle en prose, moins en poésie. Mais c'était le point de départ. Je trouve que les points de départ sont importants pour raconter des histoires. Donc c'est un aspect vis-à-vis de ça aussi.
Dans ce recueil, d'ailleurs, le bain et la douche froide est au cœur de votre livre. C'est vraiment au milieu, puisque c'est la douzième nouvelle. Ça, je pense aussi que ça n'est pas un hasard.
Oui, c'est un hasard.
Ah, c'est un hasard.
Oui.
Ah, parce que je trouvais que c'était très très bien fait, puisque c'est quand même quelque chose qui est important pour vous. Je me suis dit que vous aviez mis justement au centre.
Alors symboliquement, je voulais qu'elle soit au milieu pour pas donner tout de suite la réponse au lecteur, parce que moi, en tant que lectrice, j'aime découvrir le titre, pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est pour ça que je vais pas en dire plus sur pourquoi ça s'appelle comme ça.
Mais quand même, quelqu'un, un petit peu tout de même, pour qu'on puisse l'histoire. En fait, je peux commencer à la dire si vous ne voulez pas la dire.
D'accord.
Ce sera peut-être plus simple comme ça. Donc c'est en fait l'histoire d'une jeune femme qui attend l'homme qu'elle aime. Mm-hmm. Ils ont une petite soirée en amoureux et elle a une nouvelle à lui annoncer, mais elle hésite toujours entre la peur de la lui annoncer et la peur de le perdre, ou qu'il reste par obligation. Puis après, voilà, il y a tout plein de choses qui se passent. Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de peut-être la cacher ou la préserver, de pas forcément la raconter?
Ça, c'est une très bonne question à laquelle je crois que je n'arrive pas à répondre. C'est peut-être, je pense que dans l'écriture, il y a une grande part de pudeur et d'impudeur, et c'est ça le jeu, c'est d'oser mettre de soi, mais pas trop, mais un peu, que ça soit quand même universel, que ça résonne. Et puis, je pense que c'est par pudeur que j'ai pas envie de dévoiler, pour que le lecteur soit libre de se l'approprier comme il l'entend, comme il le veut. C'est aussi l'intérêt, quand on lit une histoire, de la laisser résonner en fonction de ce qu'on vit. Tandis que si on raconte l'histoire, je trouve qu'on l'impose plus à l'autre.
Et c'est vrai qu'avec le lecteur, vous restez dans une relation intime, c'est-à-dire votre histoire et lui, puisque chacun va lire seul son histoire, puisque là, on a quand même 2 millions d'auditeurs qui nous écoutent, donc qui pourraient entendre l'histoire. Justement, vous parliez de ce que vous y mettez, dans quelle mesure, dans l'ouvrage le bain et la douche froide, vous avez mis de vous. Alors bien sûr que vous avez mis de vous, mais dans quelle mesure vous avez puisé dans votre histoire ou dans vos expériences, dans les rencontres, voilà.
Alors Andy, ce qui m'a intéressé pour l'écriture du bain et de la douche froide, mon point de départ, c'était de prendre un geste ou un mot ou une phrase ou un souvenir ou une croyance, soit qui m'appartenait, soit qui appartenait à quelqu'un de mon entourage, et de construire une nouvelle là autour. Donc à partir de là, il y a des nouvelles très fictives, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus proches de ce que j'ai pu vivre.
Donc donc dans chaque nouvelle, quand même, il y a un peu de soit des gens que vous avez entendus, soit des gens que vous avez rencontrés.
Oui, moi j'ai l'impression que dans chaque nouvelle, tout est vrai et tout est faux. Et plus que vrai, je dirais que je contourne bien.
Oui.
Je pense que dans chaque nouvelle, il y a une sorte de quête de vérité, oui, mais plus que de vérité, d'authenticité. À mon avis, c'est pas important combien appartient à l'auteur, à l'auteur, mais c'est important que ça soit authentique. Puis dans ce sens-là, pour moi, mes personnages, ils sont authentiques. Leurs émotions, elles sont vraies, elles sont soit puisées dans ce que j'ai ressenti moi, ou dans ce que j'ai observé, ou dans ce que le personnage m'a fait vivre après l'avoir construit.
Et est-ce que c'est important pour vous quand même de partir d'un point connu ou vécu ou entendu, même si c'est quelque chose d'infime, et après de construire une histoire où ça peut vraiment partir de rien du tout, de connu pour faire quelque chose de complètement fictif?
Je pense que les deux sont possibles. Dans ce recueil de nouvelles, j'avais envie de partir de quelque chose d'universel. C'est ce qui me rapproche aussi du lecteur, c'est ce qui me rapproche d'émotions vraies, c'est ce qui me donne aussi la légitimité d'écrire et de raconter l'histoire. Et ce mélange justement de quelques nouvelles qui sont de l'ordre du récit, donc plus autobiographique, et le mélange de nouvelles fictives, ça m'a donné beaucoup de liberté d'inventer, d'être fidèle à ce que je ressens. Ça m'a imposé beaucoup de contraintes, mais ça m'a donné aussi de la liberté. Et la liberté, c'est aussi quelque chose qui ressort pour moi beaucoup dans le livre. Le respect, l'humanité, la liberté, tout ça sur une pâte à gâteau de cruauté.
Ça adoucit un petit peu quand même le tout. On va écouter, on comprendra aussi pourquoi après. La musique que vous avez choisie pour cette émission, c'est Göttingen, donc de Barbara. On en parlera tout à l'heure pourquoi ce choix et quel est le rapport avec le livre.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. Göttingen, bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Seine. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous, nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La de même à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen.
Göttingen de Barbara. Donc j'ai le plaisir d'être avec Mélanie Richaud aujourd'hui pour parler de son nouveau livre Le bain et la douche froide, paru aux éditions Slatkin, donc un recueil de nouvelles. Mélanie, vous aviez choisi justement Göttingen de Barbara. Pourquoi ce choix?
Parce que dans le recueil de nouvelles, il y a deux nouvelles qui traitent le sujet du racisme et notamment du génocide rwandais. Et puis c'est un hommage à ces nouvelles-là. Et par exemple, l'une de ces nouvelles s'appelle « Citoyen du monde », où c'est une rencontre entre un Rwandais qui a vécu le génocide, qui était enfant soldat, et une jeune fille suisse qui a eu un accident. Et ils se rencontrent à la suite de ça, et ce garçon rwandais demande à cette jeune suisse d'écrire son histoire. Et il lui explique son rapport à la guerre, il lui explique qu'il prie chaque jour pour pas que ça arrive encore, parce qu'il est sûr que ça se reproduira. Comme quand on parle de la Shoah, il y a toujours cette peur avec plus jamais ça.
Et citoyen du monde, pour dire, c'est pas parce qu'on vit ici, dans un pays en paix, ou dans, voilà, qu'on peut pas être solidaire, ou en tout cas comprendre ce qui se passe ailleurs, c'est ça aussi?
Le titre de citoyen du monde a été donné parce que le personnage de cette nouvelle, qui s'appelle Irva, dit qu'il aimerait avoir des enfants métissés pour que partout ses enfants se sentent chez eux, qu'ils soient citoyens du monde, qu'ils soient en Suisse ou au Rwanda ou n'importe où ailleurs.
Voilà, qu'il n'y ait pas ce racisme, cette incompréhension, ces peurs qui engendrent justement le racisme. Il y a tout au début de votre livre une citation d'Annie Ernaux qui était dans son livre L'écriture comme un couteau, et qui est, je cite, « Et de plus en plus souvent, les êtres rencontrés, ceux dont je me souviens, existent sous la forme de mots qu'ils ont dit ou de gestes qu'ils ont eus. » Je trouve que c'est une citation qui résume très bien votre ouvrage, parce qu'on a vraiment le sentiment que même si c'est des scènes mises bout à bout, il y a ces souvenirs, on retient ça. Est-ce que c'est aussi votre cas, c'est ce choix de cette citation en préambule de votre livre, C'est pour dire de toute façon tout ce qu'on retient des gens qu'on a pu rencontrer, des gens qu'on a aimés, c'est justement ça, leur geste, c'est ces petites choses qui semblent insignifiantes mais qui sont importantes.
Alors je suis d'accord avec cette citation, je l'ai trouvée après, je l'ai lu avant d'avoir écrit le livre, mais je l'ai retrouvée après l'avoir écrit, et il était construit vraiment de cette manière-là. Et dans ma manière d'écrire ou dans ma manière de me souvenir, c'est exactement ce qui est dit dans cette situation, dans cette citation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'impriment, des phrases ou des mots ou des gestes que j'arrive voir ou dont j'arrive me rappeler, comme si c'était des traumatismes en fait. Les gens, quand ils ont des traumatismes, ils arrivent à redécrire une scène exactement comme elle a été vécue. Et des fois, j'ai l'impression que si je reprends pas ces mini mots de traumatisme, ces mini bouts de phrases, j'ai l'impression que si je les reprends pas, elles pourront jamais me laisser en paix. Donc c'est ce qui me motive à les écrire ou à raconter l'histoire ou à dénoncer des choses. Il y a quand même pas mal de dénonciations aussi dans le recueil des nouvelles. Puis la deuxième raison pourquoi j'ai choisi Annie Ernaux, c'est vraiment mon auteur de référence. C'est l'auteur que j'ai le plus lu, qui a écrit quasi que du récit. Et le récit me fait beaucoup envie, m'attire beaucoup. Je trouve le récit très universel. J'ai eu une ou deux générations de décalage avec elle et je me reconnais dans ce qu'elle écrit. Et je me sens très proche d'elle. Et je trouve que la force du récit, c'est assez magique en littérature. Donc c'était un hommage à elle aussi.
Vos deux précédents ouvrages, donc Tourterelle, paru en 2012, et Mu l'année passée, sont des romans en fait. Pourquoi avoir choisi le style nouvelle, d'avoir fait un recueil de nouvelles pour cet ouvrage-là?
Alors je pense que le roman est très angoissant dans le sens où je travaille sans plan, je sais jamais où je vais, et jusqu'à ce que j'arrive à la fin, je me demande toujours si l'histoire est cohérente, si j'ai le droit de raconter ça, si je vais réussir à faire en sorte que l'histoire avance, qu'elle soit juste, qu'elle soit authentique. Et c'est un travail de longue haleine, donc c'est de l'angoisse sur plusieurs mois. Et après deux romans, j'ai aussi voulu essayer de différencier mon travail pour peut-être diminuer le temps de mes angoisses.
J'allais dire, les angoisses sont plus petites, hein. Ouais. Vous en avez 24, mais de moins longue durée.
Et diversifier aussi le plaisir. Et c'était aussi un challenge d'essayer de faire autre chose. Et ce qu'on m'a aussi dit pour Mu et Tourterelle, des fois on m'a dit que c'était de grandes nouvelles. Donc c'est aussi un jeu de prendre les gens en mots et d'essayer une nouvelle formule. Et j'ai aussi commencé à écrire avec des chroniques. Et le format court, c'est quelque chose qui me plaît bien. Je le trouve plus percutant, j'aime beaucoup les romans, hein. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer les romans, mais je trouvais qu'il y a quelque chose de dynamique et de très puissant dans les nouvelles.
Le fait, c'est vrai que d'avoir une nouvelle qui est sur 2, 3, 4 pages maximum, c'est vrai qu'avec une histoire forte, à chaque fois, en tout cas dans le bain et la douche froide, ce sont des émotions, ce sont des concentrés d'émotions. Il y a des moments où vraiment ça m'a touché, et surtout, il y a des moments où j'aurais pu me pendre. Non, j'exagère un petit peu, mais... Il y a des moments où je trouvais ça assez. Mais il y a une chose que je trouve très très bien dans votre livre et que j'aime beaucoup. Vous voyez, il faut plus que je dise ça parce qu'en fait, je me fais un peu taper. Il faudrait. J'ai pas le droit de le dire normalement à l'antenne, mais. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimée et qui pour moi résume aussi le livre, même s'il y a des moments où les émotions sont plus tristes, sont plus noires, c'est dans le cadre de la nouvelle Ça m'est égal, donc d'un jeune homme qui assiste à un cours de catéchisme. Il sait pas trop l'amour physique ou l'amour entre les êtres humains, il le connaît pas trop. Et là, un prêtre un peu une vieille barbe qui fait des théories un peu idiotes. Et à la fin, il dit, la foi, c'est aimer, c'est juste ça. Et je trouve que votre livre, c'est aussi une foi en la vie. Et c'est juste peut-être aimer cette humanité comme elle est pour la vivre au maximum. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu en lisant votre livre. Et je sais pas si c'était peut-être un message, il y avait un message que vous voulez transmettre ou pas forcément.
Oui, pour moi, il y a une quête d'idéal, il y a une quête d'amour. Et puis, pour s'approcher de cette quête-là, j'ai un besoin de transparence. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de noirceur ou tant de noirceur.
Que d'amour.
Que l'amour, ouais. Il y a l'un et l'autre.
Il y a vraiment l'un et l'autre, effectivement.
Mais c'est marrant parce que j'ai le souci, déjà en regardant la couverture, en regardant la couverture, que ce soit un recueil trop gentil, parce que c'est aussi des personnages adolescents qui racontent l'histoire. Enfin, pas que, il y a plusieurs personnages, mais j'ai le souci que ça soit trop gentil. Je sais que ça n'allait pas dans le fond, mais j'ai ce souci-là. Et.
Pourquoi ce souci? Vous avez peur que ce soit perçu comme quelque chose un peu mièvre ou
un peu mièvre ou gentillet? Ça ne l'est pas, mais si on m'écoute, c'est pour ça que c'est aussi difficile d'en parler. Je vais en parler avec peut-être trop de douceur ou trop d'idéal, et on n'en retiendra que ça. Et pour moi, le message, il est au-delà de ça. Ils sont plutôt les profondeurs et les méandres de l'âme humaine.
Le message va au-delà de ça. Et si certains s'arrêtent peut-être à la couverture, qui peut paraître, on voit une jeune fille la tête sous l'eau quand même avec une jupe.
Elle a la tête sous l'eau, on croit.
Oui, on croit qu'elle est sous l'eau, mais elle a la tête sous l'eau. En fait, c'est un peu compliqué. Il faut voir la couverture. c'est vrai que non, ça ne l'est pas. C'est juste pas bien. Mais cette crainte, justement, que ce soit un roman de gare, si je peux me permettre, excusez-moi la comparaison, elle est présente, cette crainte chez vous? Que ce soit quelque chose de vraiment trop doux, puis ça ne montre pas suffisamment la vie comme elle est.
Non, je crois pas. Je pense que ça appartient au lecteur de s'approprier le texte et l'histoire. Mais il y a ce côté quand même. Où c'est beaucoup d'adolescents qui parlent, qui sont confrontés aux mêmes problématiques que les adultes, le suicide, la pédophilie, le viol, enfin il y a tout ça. C'est aussi pour ça que ça vous donnait des envies particulières.
On retrouve effectivement tous les âges, hein, de l'enfant, de l'écolier jusqu'à la dame âgée qui a 103 ans. On retrouve l'amour entre tous les êtres humains au sens large, hein, l'amour entre deux hommes, l'amour entre femme et un homme. On retrouve vraiment tous les cas de figure, le viol, l'amour, la crainte, la peur, l'enfance, etc., etc. Donc c'est vraiment une fresque humaine dans son intégralité. Donc non, je pense que vous êtes vraiment dans l'humanité.
Ouais, je pense aussi dans. J'avais un souci que ça soit des phénomènes de société contemporains, que ça soit proche de ce que vivent les gens à notre époque.
Vous avez des gens, je pense déjà, des gens vous l'ont déjà lu.
Très peu, parce qu'il est en librairie depuis lundi, en fait.
Donc voilà, bon, mais la moitié du canton s'est rué dans sa librairie pour aller l'acheter, j'en suis sûr. Est-ce que vous avez déjà eu des retours? Vous avez des gens qui sont, alors peut-être des proches, ou des gens qui sont quand même venus vous dire non, mais c'est fabuleux, ou avec une vision différente de ce que vous voulez transmettre?
Alors la personne qui a fait la couverture, qui s'appelle Baptiste Cochard, qui est un graphiste fribourgeois. À l'atelier des Tours, lui, il était surpris de tant de noirceur, et puis ça lui a parlé. Autrement, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont lu. Il y a des blogueuses qui l'ont lu et chez qui ça résonne. Je suis contente parce qu'elles parlent justement de cette résonance. Elles se reconnaissent dans justement la peine de prendre, la difficulté de prendre sa place, etc. J'ai encore eu très peu de retours, en fait.
En tout cas, vous en aurez certainement, puisque c'est un livre qui ne laisse pas indifférent. On aime, on passe, je pense, de l'amour à l'incompréhension par moment, à l'envie de sauver le personnage ou pas. Donc c'est vraiment un livre qui touche dans le bon sens du terme et qui remet en question aussi sur certaines choses, puisque c'est aussi des sujets de société. Donc je rappelle que Le Bain et la Douche Froide vient de sortir, votre recueil de nouvelles, aux éditions Slatkin. À trouver dans toutes les bonnes librairies, bien sûr. Est-ce que vous serez présente pour des dédicaces dans l'une ou l'autre librairie du canton?
Je serai au Vieux-Comté le 12 avril.
Donc tout bientôt.
Oui.
Et en ville de Fribourg?
En ville de Fribourg, il y aura le vernissage le 10 avril à l'ancienne gare.
D'accord. À noter alors le vernissage de votre livre. Vous allez en lire quelques passages?
Oui, je vais lire trois nouvelles. Je vais lire Petite Moi. comme des enfants sauvages dans l'embrasure d'une porte.
Et le bain et la douche froide pour que les gens connaissent.
Non. Et la troisième promenade, c'est la dernière nouvelle qui ponctue le recueil avec une vieille dame qui a 103 ans.
Très bien, alors ces dates à ne pas manquer en tout cas et le lire peut-être d'ici là. Et autrement, sur Facebook, blog, où on peut vous retrouver
Sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, sur tout ça. En tout cas, je rappelle, Le bain et la douche froide, donc un recueil de nouvelles de l'auteur Mélanie Richaud, paru aux éditions Slatkin. Il vient tout juste de sortir, il est tout neuf. J'ai eu la chance de lire un peu avant les autres. Et bien sûr, elle sera présente le 12 avril à la librairie Le Comté à Bulle pour la dédicace et autrement le vernissage qui aura lieu, excusez-moi pour me rappeler la date.
Le
jeudi 10 avril à l'ancienne gare de Fribourg. Mélanie, merci beaucoup d'avoir été avec vous, avec nous, pardon. Et plein succès pour ce nouveau livre.
Merci.
Merci beaucoup à vous deux. Demain, à l'ombre du baobab, Thierry Savary va nous parler en avant-première du Festival international du film fribourgeois. Et puis, toutes les émissions à l'ombre du baobab la semaine prochaine seront consacrées au Festival international du film de Fribourg. En direct d'une ambulance. C'est ça qu'il faut pour Thierry Savary en ce moment. Et ça se passe en face du Nouveau Monde. On vous en dira plus dans ces prochains jours. Et à l'ombre du baobab, c'est donc terminé pour aujourd'hui.
À l'ombre du baobab.